votre niveau. Ça va?
Oui.
On a un visuel, vous me voyez, et je vous vois, vous cachez pas derrière la personne qui est devant. On va prendre un temps un peu différent, il y aura des questions, des réponses, et ce sera une bonne conclusion. Si vous êtes revenu, c'est que voilà, le sujet vous parle, le thème vous inspire et que vous êtes demandeur. Je vais, avant de passer un second temps de questions-réponses, je vais quand même vous partager, j'ai pas tout fait, j'ai pas tout apporté ce que j'ai préparé. Vous avez le PowerPoint qui vous attend ou le livret qui peut compléter aussi. J'aimerais juste aborder un sujet qui me semble très très intéressant aussi, c'est se pardonner à soi-même.
Oui.
Alors là, vous pouvez en vouloir à personne, c'est devant vous-même que j'aimerais vous placer, parce que c'est un vrai problème chez certaines personnes.
C'est la question que je reposais.
Et je ne les accuse pas, elles ont développé une estime d'elles-mêmes complètement dégradée. Elles ne s'aiment pas, elles n'ont pas d'assurance, elles n'ont pas confiance en elles, elles ne se pardonnent pas à elles-mêmes. Et c'est vrai que Dieu les a pardonnées, elles sont chrétiennes, leurs péchés sont pardonnés, ça c'est la parole de Dieu qui le dit. Tous ceux qui se repentent, qui se convertissent, qui croient au Seigneur Jésus, reçoivent le pardon de leurs péchés. Mais quand vous les branchez, entre guillemets, sur le sujet, elles s'en veulent. Alors je ne sais pas si quelqu'un ici est sensible à ça, mais on peut voir la roue tourner, les années s'accumuler, l'âge venir, on peut vieillir avec ça et mourir avec ça. Vous trouvez que c'est une vie chrétienne normale?
Non.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'aimer soi-même, sans tomber dans le narcissisme, qui consistera à se regarder dans la glace et être vraiment quelqu'un de bien. Voilà, faut juste un peu d'équilibre. Alors la diapo d'après, j'ai écrit ceci, si bizarre que cela puisse paraître, il est des personnes qui refusent cette grâce parce que leur condition à leurs yeux, et c'est une question de regard, les empêche de la recevoir. Ils ou elles sont de trop grands pécheurs. J'en ai trop fait pour que Dieu puisse jamais leur pardonner. Plus souvent encore, ils ou elles espèrent que par miséricorde, Dieu finira par leur pardonner. En vérité, c'est une forme d'incrédulité qui conduit à une paralysie de la foi et fait le jeu de l'adversaire. Et en plus, ça peut tout à fait cacher un orgueil déguisé. Et j'aimerais dire cet après-midi à quelqu'un, ne sois pas plus dur que Dieu. Si Dieu t'a pardonné, apprends à te regarder comme tel. Mais c'est vrai que le passé, et le diable est doué avec ça, pour nous le rappeler, notre passé est pardonné. Il faut tenir bon sur ce terrain-là. Oui, j'ai fait des bêtises, oui, j'ai fait des tas de bêtises, mais je suis pardonné.
Amen.
Celui qui vous parle n'avait pas une grande estime de lui-même. Avec toutes les blessures qu'on reçoit, on finit par n'avoir confiance en personne. Et la confiance, c'est un peu la bonne atmosphère qu'il devrait y avoir dans notre âme. Et quand il n'y a pas la confiance, ben, il n'y a pas confiance en soi, il n'y a pas confiance dans les autres, et il n'y a pas confiance en Dieu non plus. Et ce cycle de la confiance brisée est quelque chose qu'il faut comprendre vraiment, parce que Dieu est celui qui répare les cœurs brisés.
Amen, oui.
Celui qui répare les brèches, le réparateur des brèches. Et, comment dire, on peut l'expliquer, on peut argumenter, on peut montrer les versets, mais vous avez l'impression que rien ne rentre, rien n'y fait. C'est vraiment spirituel, c'est une victoire que le Seigneur veut vous accorder, de vous aimer vous-même. Dieu vous aime, aimez-vous. Et quelqu'un qui ne s'aime pas ne sera pas prêt à aimer les autres. On est d'accord, c'est un bel équilibre, hein. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même, et tu ne pourras pas aimer plus les autres que l'estime que tu as pour toi-même. Je le dis en passant. En plus, c'est une petite parenthèse que je vais faire rapidement, il existe dans la parole un péché impardonnable qui s'appelle donc le blasphème contre le Saint-Esprit. Et j'ai rencontré des chers frères et sœurs qui étaient persuadés qu'ils l'avaient commis et que, voilà, ils n'étaient pas pardonnables. Alors, il faut là aussi revenir rapidement vers les textes et voir qu'est-ce que c'est, qui l'a commis. Ce sont des pharisiens dans le texte de Jean 3 qui vont attribuer à Satan les miracles que Jésus est en train de faire. Bon, vous n'en êtes pas là, non? D'accord? Donc vous n'avez pas commis le péché impardonnable. Comment on l'évite, ce péché? Mais simplement en restant dans la foi, dans l'écoute du Seigneur, dans l'humilité devant Dieu, et soyez tranquille. Ok? Donc, je trouve que la parole de Dieu est vraiment utile pour fonder notre foi, être la lumière sur notre sentier pour marcher correctement. Mais ne faisons pas dire aux textes ce qu'ils ne disent pas. Et tout au long de ce week-end, j'ai essayé de vous amener vers les textes, vers ce qu'ils disent, des fois dans l'original, dans le terme original, pour que, comment dire, on ne parte pas n'importe comment, quoi. C'est la parole de Dieu qui est le fondement de notre foi. J'aimerais, et là je passe à la diapo 67, j'aimerais vous parler aussi de certains textes qui sont, à mon avis, utilisés un peu abusivement. On va parler d'intercession et pardon. On cite par exemple abondamment le texte « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». On est devant quoi là dans ce passage? On est devant Jésus qui intercède pour les coupables. Mmh. On est dans l'intercession pour les offenseurs. Et vous savez que vous êtes sur le bon terrain quand vous arrivez à prier pour ceux qui vous ont fait du mal. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous arrivez à prier pour ceux qui vous ont blessé? Si vous n'y arrivez pas, je ne vous jette pas la pierre. Mais je vous dis que c'est un bon curseur, un bon moyen de vérifier qu'on est dans la bonne attitude intérieure quand, malgré le mal qu'on a eu, malgré le mal qu'on a encore, on est capable de prier. C'est ce que Jésus fait. On est dans l'intercession. Il garde son cœur net de toute amertume. Et vous me direz, oui, mais c'est Jésus. Hein. Et regardez Étienne. Mm-hmm. Lors de son martyre, il dit la même chose, acte 7, 60. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il intercède pour que Dieu pardonne à l'offenseur, mais ça ne veut pas dire que l'offenseur à ce moment-là est pardonné. Mm-hmm. L'offenseur sera pardonné quand il passera par la repentance. La conversion, la foi, on l'a dit. Alors, intercession et pardon, vous avez des tas de textes, on ne prend pas le temps de les lire, mais c'est toutes les diapos qui suivent. Vous avez Moïse qui intercède en faveur du peuple et qui dit « pardonne l'iniquité de ce peuple ». S'il y en a un qui a vraiment eu des gens à conduire difficiles, c'est bien Moïse. Pourquoi tu ris, Cyril? Voilà, parce que la Bible me dit que c'était l'homme le plus patient que la terre ait jamais porté. Et quel peuple! Et il est là et il intercède auprès de Dieu. Alors qu'ils ont fait quand même quelque chose de grave, hein. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer, ils ont vu la délivrance de Dieu. Et dans le désert, ils font un veau d'or. Et il dit, Israël, voici celui qui t'a fait sortir. Vous vous rendez compte? Dieu a droit de se mettre en colère et dire, allez, pousse-toi, je les supprime. Et je recommence un peuple avec toi. Non, Seigneur, pardonne. Et heureusement qu'il y a des hommes comme ça qui savent intercéder. Hein? Moïse, un bon exemple. Daniel, chapitre 9, versets 15 à 20, vous lirez ça. Il est là, et alors qu'il subit l'exil suite à la désobéissance du peuple, il est là dans son exil et il intercède pour le pardon. Vous ne vous tromperez jamais en priant pour ceux qui vous ont fait du mal. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et des fois, c'est plus facile pour les inconvertis du dehors qui nous persécutent que pour le frère et la sœur qui... Mais prie pour ton frère et ta sœur aussi. On a des armes qui sont spirituelles. On n'est pas charnel. Je m'adresse à des gens spirituels à qui Dieu fournit des armes spirituelles. On n'a pas à combattre la chair et le sang. On a à combattre quelque chose de méchant qui veut nuire à l'Église. Alors, quand je voyage un peu comme ça, des fois, je m'amuse à regarder sur Internet l'histoire de la ville où se trouve l'Église. Oui, ben j'ai été édifié, hein, en regardant sur Arles l'histoire de la ville d'Arles. Je disais à mon chauffeur tout à l'heure, même le Rhône se divise à Arles. Un esprit de division. Même le Rhône en fait les frais. Ça va si je dis ça comme ça?
C'est vrai, on vit autre chose. Hein.
Oui. Donc l'histoire de la ville éclaire l'atmosphère spirituelle qu'il y a dans cette ville. Et Dieu se plaît à ouvrir une église à Arles.
Alléluia.
Eh ouais. Et il ne faut pas être naïf. Il faut vraiment intercéder. Vraiment intercéder. Je vous donne un conseil au passage, un conseil fraternel. Prenez du temps dans le jeûne et la prière. Et pas un repas sauté comme ça une fois par mois. Moi, je crois que ces temps de jeûne et prière, et dans la Bible, et dans la pratique que j'ai découverte, ça a vraiment fait bouger les choses. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, je ne connais pas les enjeux arlésiens, mais je sais, je ne serais pas étonné que vous preniez la victoire dans le jeûne et la prière. Alors, je n'ai rien à conseiller au pasteur, il est le pasteur, je suis que de passage, mais je me souviens à l'époque avoir été invité en Suisse à un jeûne et prière d'une semaine. Pas manger pendant une semaine, moi je vais mourir. Déjà, je suis pas grave. Je vais mourir. Et on s'est retrouvé à 300 dans un cadre magnifique pour jeûner et prier pendant une semaine. Quelle expérience! Ensuite, on a fait venir cela en France. Et dans le Nord-Est, on a mis en place ces semaines de jeûne et prière. On arrête tout et on va sur la montagne, dans une structure adaptée où on va vivre ensemble une semaine. Quand vous vivez ensemble, c'est obligé que les dossiers ressortent. Et on se tient devant Dieu. On écoute sa parole. Et puis ensuite, comme ça me satisfaisait qu'à moitié, je dis oui, mais tous ceux qui restent dans la vallée, tous ceux qui restent, qui ne peuvent pas venir, comment on fait? Alors maintenant, on l'a fait venir à l'église. Et pendant un bout de semaine, 3, 4 jours, on arrête tout, on jeûne et on prie. On se tient devant Dieu. Vous savez, on est dans le combat spirituel. Faut pas ignorer, dit la parole de Dieu, nous n'ignorons pas ses desseins, en parlant du diable. Je ne veux pas avoir des démons partout, mais je ne veux pas non plus en voir nulle part. Et je sais bien qu'il y a des enjeux qui sont là et que intercession et pardon vont étroitement ensemble. Est-ce que vous pouvez être des intercesseurs, s'il vous plaît? Des intercesseurs pour que la question du pardon puisse être pleinement vécue. Un week-end, ça fait du bien sur le sujet, mais je sais qu'il y aura des suites. Et que la meilleure des suites, c'est de se tenir devant Dieu dans l'intercession, dans le jeûne et la prière. Regardez Néhémie, hein, les exemples sont nombreux. Néhémie 9, 17, 31 à 33, on voit un homme qui intercède, qui intercède. Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable, mais exerce la miséricorde. Voilà. Pardonne. Pardonne. Samuel, une femme, Abigail, ça va, t'arriverais à suivre? Oui. Abigail, qui avait un mari fou. Nabal, ça signifie fou. Et qui va dire à David, pardonne, j'étais pas là quand tu as envoyé tes messagers. Pardonne l'attitude de mon mari. Et elle apporte, ce qu'il faut pour nourrir la troupe de David, qui avait protégé les bergers de Nabal. Pardonne, pardonne, quelle attitude, quelle attitude. Qu'est-ce que vous en pensez? On est des Daniel, des Abigail, on est, voilà, encore un exemple, Abraham. On la connaît, cette intercession. Avec Sodome et Gomorre. Commence à 50 et puis il termine à 10. Quel intercesseur. Pardonne, pardonne. Plus près de nous, dans le Nouveau Testament, écoutez ce que Paul dit à Philémon. Il parle d'Onésime, qui a joué des tours à son patron. Mais qui s'est converti en prison. C'est drôle, il est tombé dans la cellule à côté de celle de Paul. Et Onésime s'est converti. Onésime signifie utile, mais il était complètement inutile. Et il dit, Paul dit à Philémon, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et vous vous rendez compte? L'intercesseur est pratique. Il te doit des sous. Mets-le sur mon compte. Vous feriez ça, vous? Surtout quand ça touche le porte-monnaie. Eh bien, c'est ce que fait Paul. Quel exemple. Frères et sœurs, on est devant la parole de Dieu. On est donc rendu responsable. Ce week-end te rend responsable. Plus qu'avant encore. Avant, tu pouvais dire « je ne savais pas ». Maintenant, tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Intercession et pardon. Je trouve ça tellement pratique. Et vous pourrez, enfin, parce qu'eux pouvaient aussi dire, oui, mais t'as vu tout ce qu'il m'a fait. On peut toujours dire, t'as vu tout ce qu'il m'a fait. Mais si tu veux une issue à ton problème, commence à prier. Commence à intercéder. Et Dieu va conduire les choses. Dieu va conduire les choses. Je voudrais aussi vous parler de ce que j'appelle le deuil et le pardon. Excusez-moi, je vais vite parce que je voudrais aussi aborder d'autres aspects. Le deuil et le pardon. Quand on perd un être cher, la première étape, c'est le choc. Et presque même le déni. Pince-moi, c'est pas vrai, il n'est pas mort. On est dans l'étape du choc, une sorte de torpeur, de vide dans nos pensées, et on évite d'y penser, ça fait trop mal. C'est l'étape du choc, elle est normale. Elle est normale. Tous ceux qui ont perdu un être cher confirmeront ça. Ça, c'est enseigné en fac de médecine, dans les soins infirmiers aussi. On apprend au personnel soignant ces étapes-là. Il faut connaître les mécanismes de l'âme. Et dans l'Église, c'est pas ne pas être spirituel que de vous dire ça. C'est très pratique et c'est très vrai parce qu'on est dans l'humain. Donc, première étape, je prends la nouvelle en plein dans le cœur. Je suis dans l'étape choc et déni. Ensuite vient l'étape colère. Parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Je me souviens, ma sœur, elle était prof en université, son mari commissaire de police à Nancy. Rupture d'anévrisme. Jean-Claude décède brutalement. Je vais voir ma sœur, elle me dit, je suis en colère. Il m'a laissé tomber, le pauvre. Il n'a pas fait exprès d'avoir sa rupture d'anévrisme. Mais elle était abandonnée. Et c'était l'étape colère à fond. Je lui dis, mais c'est normal. Il faut trouver un coupable. Il faut qu'on accuse quelqu'un. Et dans un accident, c'est forcément l'autre en face. On accuse quelqu'un ou quelque chose. On a un sentiment d'injustice et de rage. Là aussi, c'est une étape. Et écoutez bien le mot étape, c'est-à-dire on y passe. Et tous ceux qui voudraient dire, moi, j'y passerai pas, ben, ils connaissent pas la nature humaine. Et quand ça va, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Mais n'ayez pas peur de ces étapes. On les traverse. Ensuite vient l'étape marchandage ou encore culpabilité. On est en train de se dire, ah, si seulement j'avais. On se débat avec la culpabilité. On regrette de ne pas avoir fait ceci, dit cela, etc. Et ce sont des regrets. Concernant le passé et des peurs concernant le futur. On est dans l'étape culpabilité. Seulement, on ne peut pas faire revenir le défunt. Il est parti. C'est pour ça que, soit dit en passant, parler pendant qu'il est vivant. Hein.
C'est sûr.
Parce que quand il sera mort, on ne pourrait plus lui parler. J'ai dit à ma sœur, les morts ne nous voient pas et ne nous entendent pas. Parlez pendant que c'est vivant, là. Je ne sais pas comment faire. Oui, ben écoutez, Dieu va vous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Je referme la parenthèse.
C'est vrai.
Ensuite, vient l'étape, et c'est encore une étape, vous voyez, on avance, l'étape dépression. Et là aussi, il ne faut pas accuser. Moi, j'ai entendu des bêtises. Hein. Un chrétien triste est un triste chrétien. Mais c'est archi faux.
C'est une période, ça.
La joie du Seigneur. Moi, j'ai vu une dame à Valence en arrivant. Elle m'a dit, on ne m'a pas permis de pleurer quand ma fille est morte. C'était spirituel de ne pas pleurer. Comme ça, où je suis, quoi. Vous vous rendez compte? Non, mais la joie du Seigneur sera ta force. D'accord. T'as pas trop vite pour l'instant, j'ai mal. Pour l'instant, je pleure. Je me sens désespéré, sans aide, déçu, isolé, seul. Je suis incapable de me réjouir de quoi que ce soit. Et si tu viens me dire, allez, souris. Il passe ton chemin. Tu ne connais pas mon âme. Et tu es un consolateur fâcheux. Expression biblique pour les amis de Job. Vous savez qu'ils ont cours encore, les amis de Job, aujourd'hui? Des gens qui viennent vous expliquer tout ce qui vous arrive et soupçonner du mal que vous n'avez pas fait. Consolateur fâcheux, passez votre chemin. J'ai besoin de reconnaître que je déprime. Et la dépression est mal vue au milieu de nous. Alors que moi, je dis que la dépression est le privilège des gens qui réfléchissent. Si vous commencez à réfléchir, vous allez peut-être passer par un moment de déprime. Oups, c'est plus grave que ce que je croyais. J'ai soulevé le couvercle. Je l'ai reposé tout de suite parce que... Oh là là, mais donc c'est plus grave que ce que je pensais. Et vous savez que j'appelle ça l'évangélisation des profondeurs. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, pas en surface. Fais donc pénétrer ta parole au-dedans de moi. Et je vous encourage à soulever le couvercle. La pression tombe déjà, ça sent pas bon, on le sait. Mais, c'est à ce prix-là qu'on guérit. Ok ? Et tous ceux qui veulent passer un peu vite sur les dossiers en disant « Allez, on va de l'avant, hein, et on oublie », ne font pas... Ce sont... Ils pensent à la légère la plaie de mon peuple, dit l'Écriture. Pensez à la légère. Regardez le bon samaritain, combien de démarches il fait. Moi, j'ai une prédication qui s'appelle les 10 commandements du bon samaritain. Quelle précision. Quand vous êtes devant une plaie, il faut déjà la nettoyer. L'huile et le vin. Et puis, il faut la protéger, mais des bandes. Parce que la guérison, ça germe, mais il faut protéger le processus. Et puis, il le met à l'abri, dans un lieu sécur, une hôtellerie. Et puis, il sort des deniers de sa poche, il s'engage dans ce travail. Quel bon samaritain. On sait que c'est Jésus le bon samaritain. Mais est-ce que vous ne voulez pas être des bons samaritains qui vont pouvoir comprendre, accompagner. Et quand moi j'ai compris ça, j'ai dit, mais donc c'est donc pas grave de passer par ces étapes. Vous n'êtes pas en bois, moi non plus. Et ressentir, même Jésus a été triste à un moment. Je suis triste. Jusqu'à la mort. Il y a un moment, il demande de l'appui. Vous n'avez pas pu prier une heure avec moi. Terrible, hein? Donc, cette étape-là, ne la zappez pas. Ne jouez pas les TTS, les très très spirituels. Ne jouez pas les ultra spirituels. Mais traversez ces moments. Le Seigneur n'a pas dit qu'il nous épargnerait. Il nous a dit, je suis avec vous. Tous les jours. Et où que t'en sois, jusqu'à la dernière étape qui s'appelle l'acceptation. Et à ce moment-là, on accepte la réalité du départ de l'autre, on pardonne, on va de l'avant, on forme de nouvelles amitiés en faisant confiance à Dieu. Et ça y est, on est sorti du cycle. Mais, ce qui est vrai pour la perte d'un être cher, l'est aussi dans le domaine du pardon. Je m'explique. Je ne suis pas venu vous rendre vos années gâchées. Je ne suis pas venu vous rendre votre enfance gâchée, malheureuse. Je suis venu vous dire, faites le deuil. Et des fois, par rapport à mon passé, j'étais coincé dans l'étape colère. J'étais coincé dans l'étape culpabilité, j'étais coincé dans l'étape dépression. Aujourd'hui, je n'ai pas accepté l'inacceptable. L'abus reste inacceptable. Mais j'ai accepté ce qui m'est arrivé pour le mettre sous mes pieds et choisir de m'en servir pour encourager mes frères et sœurs. Ça change tout. Ça change tout. Quand nos expériences mauvaises deviennent notre témoignage. Ok, et c'est pas pour moi seulement, c'est pour chacun de vous. Mais tant que vous n'aurez pas fait le deuil d'une relation rêvée, des fois on rêve de communion fraternelle, je sais pas si on est sur la terre. Je suis désolé, le paradis, c'est encore pas maintenant. Mais sur la terre, actuellement, eh ben c'est comme ça, quoi. L'église idéale que vous avez dans la tête, elle n'existe pas. Je pèse mes mots. Sur la terre, vous ne la trouverez pas. Vous pouvez aller d'église en église, vous retrouverez les mêmes humains. D'ailleurs, dès que vous rentrez, c'est imparfait, parce que vous êtes imparfait. Ça va ? Je ne vous blesse pas, hein ? Non. Non. Et donc, il faut faire le deuil de l'église idéale. Il faut faire le deuil de ces attentes qu'on a inconscientes dans notre tête. Moi, j'ai dit à mon père, tout de suite après ma conversion, parlant de mon église, ce sont des gens parfaits. Il m'a répondu avec beaucoup de sagesse, on en reparle dans quelques temps. Et il a eu raison. J'ai été pris en charge par un couple très gentil, j'étais célibataire à l'époque, qui m'invitait tous les dimanches à sa table. Franchement, chapeau. Hein. C'est encore des amis aujourd'hui. Ils m'ont entouré, ils m'ont des fois expliqué la Bible selon ce qu'ils en connaissaient. Un jour, ils m'ont dit, tu sais, c'est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et tu peux me trouver le verset? Il cherche encore, hein, il n'a pas trouvé encore. Des fois, vous savez, hein, on est capable d'affirmer des trucs comme si le Saint-Esprit nous avait infusé une ampoule d'huile sainte, mais ce n'est pas la réalité. Hein. Et puis au bout d'un moment, mon pasteur m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, quoi? T'as pas vu qu'ils veulent te marier avec sa frangine? Elle rentrait de mission, elle était célibataire endurcie, il y avait combien d'années entre nous, je ne sais pas, d'écart. Et tous les midis, effectivement, tous les dimanches midi, il m'invitait, mais il invitait aussi elle. Et moi, mais j'y voyais rien du tout. Elle s'était attachée à moi, mais moi pas à elle. Et toutes mes paroles étaient interprétées. Seigneur Jésus, comment je fais pour sortir de ça? Ça vous fait rire, hein? Ben moi, j'ai pas rigolé.
Oui, sûrement. C'est vraiment...
Ils ont essayé de me marier. On est dans l'église, hein? On en reparle dans quelques temps. Ben oui, il avait raison, papa. Donc, faites le deuil de vos attentes irréalistes, de votre passé qu'on ne peut pas vous rendre, et donnez à ce jour un nouveau départ à votre vie. Alors, ok, je ne vais pas passer mon énergie et mon temps à me retourner tout le temps sur le passé. Je vais aller de l'avant. Certes. Alors, et vous verrez, et c'est dans ces moments-là, quand on est capable de prier pour les autres, qu'on est capable de faire le deuil de tout ce qui nous est arrivé, et qu'on décide de faire confiance à nouveau. J'accepte la réalité, je pardonne, je vais de l'avant, je forme de nouvelles amitiés, je fais confiance à Dieu. Je sors du deuil. Et je vais bien. Ça va? Il me semble que c'est important parce que je pense être équilibré, hein, dans tout ce que j'ai dit ce week-end. Je vous ai dit qu'il ne fallait pas ignorer les dossiers, mais je vous donne ici une clé importante pour sortir de l'ornière et de l'impasse. Ok, voilà, alors, quelle heure il est? 16h11. Je termine avec la diapo, s'il te plaît, 81. Je vais intituler la vie après le pardon. Est-ce qu'il y a une vie après le pardon? Qu'est-ce qui vient après le pardon? Thomas Bloomer a écrit ceci: un enseignement sans réelle mise en pratique ne restera jamais qu'un bon conseil. Ce bon week-end ne restera qu'un bon souvenir s'il n'est pas mis en pratique.
Oui.
Et toute la parole de Dieu dit la même chose. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez en pratique les choses. Alors, je sais que je place la balle dans votre camp. Je sais que je vous pousse un peu dans vos retranchements. Je sais que l'Esprit de Dieu a parlé ce week-end. Et ensuite, la vie après le pardon, c'est effectivement marcher et demeurer dans le pardon. Vous avez des textes, Éphésiens 5, en Corinthiens 13, Galates 5, Romains 8. Vous avez des tas de textes qui vous disent comment marcher, désormais. Ok? Donc il va y avoir une phase, il me semble, hein, je prophétise peut-être un peu, il va y avoir une phase où on apure les choses, où on purge les choses. Mais vraiment, c'est parce qu'on veut, on veut atteindre la suite, on veut aller vers autre chose. Franchement, que Dieu vous bénisse.
Amen.
Vraiment. Que cette première partie que je vais terminer maintenant, avant d'écouter vos questions, on puisse dire, bon, Seigneur, c'est du sérieux cette affaire. Je ne peux pas faire comme si j'étais jamais venu à un week-end comme celui-là. Plusieurs m'ont dit, j'attendais ce week-end avec bonheur, donc je pense qu'il tombe à pic. Et je vous ai parlé avec mon cœur. Je vous ai parlé avec mon témoignage, je vous ai parlé avec la parole de Dieu, je vous ai parlé avec mon petit livret pour être le plus complet possible. Mais tout enseignement, aussi bon soit-il, s'il n'est pas suivi d'une mise en pratique, ne restera jamais qu'un bon discours. Je ne voudrais pas être un discoureur. Mais je veux être un pasteur qui a soigné, pensé les plaies du peuple de Dieu.